Oh, le bibinet. Ouh, bibinou.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Radio. Attends,
tu n'as pas de micro, donc c'est pas la peine de continuer. Oh, il n'y a pas de micro. Allô, vous entendez?
Allô.
C'est la causerie, si jamais.
Allô. J'ai pas d'idée.
Eh ben, c'est
ça,
Radio Canu.
Attends, je te prête mon micro.
Eh bien, ce n'est pas grave.
Passe ton mic.
En fait, il va pas plus loin.
Bonsoir. Et bienvenue dans la causerie ce soir sur Radio Canu 102.2. Que vous pouvez aussi retrouver sur radiocanu.org en direct, en écoute directe. Et ce soir, autour de la table pour cette 222e causerie.
Deux.
Ah ouais.
222,
ouais,
oui.
222e.
Excusez-moi.
Arrête de critiquer. On a Stan.
Hey,
voilà. On a Jean-Yves.
Ouais, bonsoir.
On a Fab.
Salut.
Et à la technique, Clara.
Coucou.
Et moi.
Et ce magnifique lancement par Jonathan.
Voilà. Et ce soir, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude par mail à.
Alors, par mail, non, on ne nous retrouve pas par mail, mais on nous écrit.
Oui, on peut nous écrire, mais après, des fois, on répond.
Sur lacausericanu@gmail.com. Donc, lacausericanu@gmail.com, tout attaché en minuscules.
Et même que vous pouvez venir voir notre super blog de La Causerie sur.
Bah, sur blogs. Avec un S donc, .radiocanu.org/lacauserie.
Certains font la faute, hein, donc avec un S, c'est important.
Oui, il faut le S, sinon vous ne trouverez pas en fait.
Ça marche là?
Non, ça marche toujours pas. Tu diras plus rien pendant l'émission.
Avant de me taire, je voulais dire qu'on peut aussi nous retrouver sur un réseau social dont l'icône est bleue et blanche. Et
ah, tu veux dire Facebook, quoi.
Ouais. Et aussi que, du coup, Stan, tu vas nous parler?
Ouais.
De quoi?
La télévision.
Ah, et alors?
Eh ben, allons-y.
C'est parti.
Donc, oui, la France a battu la Bulgarie d'un petit but et se rapproche un peu plus d'une qualification directe pour la Coupe du Monde. Une Française, Caroline Garcia, a gagné un tournoi de tennis et rentre dans le top 10 du classement de WTA. Et Hamilton a gagné le Grand Prix du Japon. Voilà, vous avez toutes les armes pour affronter la pause café du lundi matin. Maintenant, on va passer à un vrai sujet.
Waouh, ça c'était bien lancé.
T'as vu? On teste le micro? Ouais, c'est bon.
Il y a du son dans le micro vert.
En fait...
Il y a du Larsen, par contre.
Ouais. Désolé.
C'est là-bas.
Voilà,
pardon.
Ça va mieux. Voilà.
Excuse-moi Stan.
Pas de soucis.
Vas-y.
Donc je vais vous parler de la télévision. Avec une information importante pour commencer, la confiance en la télévision a reculé. Elle a un... pas qu'un petit peu en plus, elle a reculé de 9 points par rapport à 2016. Donc on a un vrai recul. Plus de 41% des Français ne remettent pas en cause la télévision. Ça reste quand même beaucoup, hein, mais les autres y remettent en cause, pas tout le temps, hein, pas totalement, pas irrémédiablement. Internet, lui, est vraiment le média le plus bas avec 26% seulement. Ça vient du baromètre annuel que j'ai trouvé sur le site internet La Croix. C'est sûrement faux vu que c'est sur internet, mais j'ai vu un logo France Inter en bas, donc c'est un site forcément bien. Même si la télévision est en baisse, la confiance reste importante. Et je trouve que notre réflexion est très différente suivant les médias face à une fausse information. On nous a appris que sur Internet, l'information pouvait être fausse. Depuis toujours, on dit ça. Depuis qu'on est petit. Donc, quand on détecte une mauvaise information, on ne s'en offusque pas. Et vu qu'Internet est un univers où l'on peut facilement s'exprimer, certains iront indiquer que l'information est fausse, tenteront le long combat pour établir la vérité. C'est compliqué, très compliqué même. Hein. 33% des gens restent persuadés que les usines à charbon allemandes sont toujours responsables des pics de pollution en France. Mais bon, on a la possibilité de le faire. À la télévision, le comportement est différent. Avachi devant notre poste de télévision, quand quelque chose de faux arrive, ben... Pour moi, en tout cas, tout de suite, je me rebelle. Comment peuvent-ils dire cela? Pourquoi? Qui? Donnez-moi l'adresse de la rédaction que j'écrive. Pff, non, c'est bon, j'ai la flemme. Je reste dans mon canapé, mais bon, c'est pas bien quand même. Car oui, on détecte parfois la désinformation, mais on peut pas faire grand-chose. C'est un univers très lointain. Et pourquoi cela sonne plus dur à notre oreille? Car on ne nous a pas appris directement qu'il fallait se méfier de la télévision. Quand j'étais jeune, on ne me disait pas « fais attention à ce que dit la télévision hein. ». Et dans nos moments de faiblesse, hein, quand notre esprit critique est parti en dos crawlé le long des côtes, bah, on n'est pas aussi attentif. Et bim, c'est l'absorption. Inconsciente ou pas, on absorbe l'information, quelle qu'elle soit. N'oublions pas que Internet, c'est une source d'information active, à l'origine en tout cas. Contrairement à la télévision qui reste une source totalement passive. On ne fait rien, à la rigueur, on change de chaîne. C'est pas la folie. Voilà le postulat. On ne nous a pas appris que ce qui se passe à la télévision pouvait être du grand n'importe quoi. Je veux dire, votre inconscient est en pause à ce moment-là. Ne me tentez pas de me dire que vous avez une activité cérébrale en ébullition devant Touche pas mon poste. TPMP pour les intimes. Et si ce qui se passe à la télévision est inconsciemment vrai, alors le faux prend une ampleur tout autre et l'absorption des dérives de la télévision peut inconsciemment devenir correcte à nos yeux. Petit tour sur une information sans grand intérêt. Le JT de 20h de TF1. Le samedi 23 septembre, arrive pour épauler la présentatrice un journaliste qui se définit comme spécialiste économie, consommation et nouvelles technologies.
À la télé, il y en a plein des spécialistes de.
Oui, c'est pour justifier, parce que la présentatrice n'est pas assez spécialiste pour, voilà. Donc on amène quelqu'un d'autre. Et il dit, je cite, « Les militantes de la France insoumise ont créé leur propre réseau social, leur propre Facebook. Ça s'appelle Discord et on compte déjà plus de 8000 personnes qui ont leur profil sur ce réseau. » Je répète, hein, ont créé leur propre réseau social. Et voilà, une grosse connerie. Les Insoumis ont créé un réseau social. C'est fantastique, mais c'est absolument faux. Discord, ça a été créé en 2015 par une start-up californienne. Ça se rapproche plus d'un Skype. Et puis ça a une orientation pour les joueurs PC. On y compte actuellement plus de 25 millions d'utilisateurs.
Et pas 8000.
Et pas 8000.
Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rebelles.
Voilà. Mais grâce à ce gars, 41% des Français, si on se réfère aux statistiques, qui regardent le JT, pensent que les Insoumis ont créé un réseau social. Alors oui, vous inquiétez pas, il a fait son mea culpa sur Twitter, hein, il a répondu à 3 personnes que la formulation était mauvaise. C'est un mec qui maîtrise les mots, enfin, il est censé le faire. Donc il sait qu'il donne une mauvaise information lors du JT. Là, c'est pas une erreur, c'est de la désinformation. La phrase « Les militants de la France Insoumise se sont regroupés sur un réseau social », c'était tout aussi simple. Et tout le monde le comprend.
Et puis, j'ai l'impression qu'il fait son mea culpa sur un autre média qui n'est pas du tout utilisé par les utilisateurs qui ont
eu
la première information.
C'est pas sur le même, pas aux mêmes personnes qu'on s'adresse, donc forcément. Et puis, répondre à 3 personnes, c'est pas un mea culpa non plus. Enfin, c'est... Voilà. Et oui, bon, ok, on va me dire qu'on peut se tromper. Ça arrive à tout le monde, c'est vrai. Mais si on se plante sur des choses qui demandent 2 secondes de recherche sur Google, quand on est un spécialiste, vraiment, hein, tapez Discord, on clique sur le site officiel ou sur Wikipédia, on a l'information. Quoi. Ça serait encore plus grave. Donc presque pour le coup, j'espère que c'est la désinformation en fait. Sinon le mec il doit vraiment raconter n'importe quoi à longueur de temps. Là, on est devant un des cas où ça impacte les spectateurs. Surtout ceux qui remettent pas en cause la télévision. Alors certes, ça n'a pas bouleversé l'univers de la désinformation, mais le but est malsain et ça n'a pas dans le bon sens. Donc d'un côté, nous avons un spectateur en absorption. C'est le principe de la télévision, pour vendre le dernier axe déo pour hommes qui fait tomber les femmes. De l'autre, nous avons des animateurs qui sont là pour animer un JT ou un show, pour nous divertir. Ça, c'était le cas avant. Vous le sentez pas, ce mouvement amplification constante qui pousse dans les shows du petit écran? Le fait que l'équipe du show ne parle plus aux spectateurs, mais juste entre eux? Les animateurs, dans un mouvement de « je me fous de ta gueule », ont oublié les gens qui regardent. Ce ne sont plus des gens, ce sont des chiffres. On arrive donc à un Baffy qui soulève la jupe de Nolwenn Leroy pendant l'émission de Hardisson « Salut les terriens ». D'ailleurs, vous la voyez la distance dans le titre de l'émission? Salut les terriens. Ils sont pas avec nous. Alors commençons juste, parce que c'est important, de citer Nolwenn Leroy après le passage, ce qu'elle en dit. Avec mon caractère bien trempé, tempête-t-elle, si je m'étais senti agressé, je me serais défendu et je lui aurais mis un coup de coude dans la figure. Mais Laurent est effectivement un ami. On se connaît depuis 15 ans, il a toujours été bienveillant et respectueux avec moi. Je ne comprends pas pourquoi cela prend de telles proportions alors que j'ai désamorcé le problème tout de suite. Dans l'absolu, je comprends de telles réactions, c'est un combat qu'il faut mener, mais là c'est le mauvais exemple, et Laurent est la mauvaise personne à attaquer. Alors bien entendu, moi spectateur, j'ai vu deux amis de très longue date, c'est notion publique. Ils se sont amusés, ils se sont taquinés. Non, désolé en fait, c'est pas ce qu'on voit. Que Nolwenn ne se sente pas agressé, j'ai envie de dire tant mieux. Si c'était une taquinerie, pourquoi pas? Mais ça marche dans un lieu privé ça, pas à la télévision, pas dans un lieu public. Le spectateur, il voit quoi? Il voit une personne qui demande à une femme de relever sa jupe parce qu'il faut du cul pour faire monter l'audimat. Utilisation de la femme comme objet pour faire plaisir à la masse. Je ne reviendrai pas des heures sur ça, vous en conviendrez que suivant là où on se place, dans l'intime ou dans le public, l'action est totalement vécue différemment. Et c'est bien ça le souci, la télévision a oublié cela. Et depuis longtemps, certains animateurs ont oublié qu'il fallait prendre en compte la vision extérieure de leur show. C'est devenu des amis qui font des blagues. Le principe, c'est de réunir des gens plus ou moins sympathiques et intéressants, de les faire interagir entre eux et de faire croire aux spectateurs qu'ils font partie de tout cela. Alors déjà c'est faux, mais c'est une technique d'audience comme une autre, mais si en plus on oublie les gens qui regardent, et l'impact qu'on a, ça devient n'importe quoi. C'est un des premiers problèmes. Si de manière inconsciente j'absorbe ce que fait la télévision, on m'a dit que c'est plutôt drôle de soulever la jupe d'une invitée. J'ai hâte d'entendre résonner les rires demain, quand je ferai ma bonne blague de beauf en soulevant la jupe d'une cliente. Mais non, les gens de la télévision ne veulent pas le comprendre, il existe un autre point de vue que le leur. Alors bien entendu, il y a des plaintes, levées de boucliers, etc. sur ce qu'a fait Baffy, ou ce qui a pu se passer à de nombreuses reprises, n'en touche pas à mon poste. Et plein d'autres émissions, hein, on pense à toi, Koé. Mais heureusement, à la télévision, on est solidaires, hein, on vient à la rescousse les uns des autres, on ne comprend pas le mal. Alors on ne s'étonnera pas de voir les animateurs de TPMP arriver en aide, parce que bon, ils ont besoin d'aide dès qu'ils font des conneries. Donc Isabelle Morini-Bosque, je cite, « La polémique est aussi nécessaire qu'un pédalo en plein désert ».
Bon, ouais, en plus, c'est pas mal comme phrase.
Ouais, pas mal comme phrase. Elle est journaliste chez RTL. Quand oui. On sait que le média radio est le sur lequel les Français ont le plus confiance, on n'est pas dans la merde. Mm. Mais il y a bien d'autres gens, dont Alexandra Sublet, qui présentait à merveille C'est à vous sur France 5 et pour qui j'avais beaucoup d'estime, qui vient à la défense de Baffy suite à un tweet où il sous-entend qu'il n'a rien fait en fait. Encore une fois, ces gens ne comprennent pas. Ces gens ne pensent que entre eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils oublient qu'ils ont un impact sur les spectateurs. Pour le coup, j'en veux pas totalement à Baffy. Il a tenté une mauvaise blague sur une amie. Il tente de faire rire, c'est son métier, il tente tout et n'importe quoi. C'est l'animateur vedette de cadrer un petit peu le show. Ardisson est là pour dire que ça va trop loin, par exemple. Bon, ok, tout le monde sur le plateau aurait dû se rebeller ou aurait pu se rebeller, et Baffy directement aurait pu s'excuser ou se dire « Oh non, ça c'est trop con, tu vas pas le faire ». Mais Ardisson peut-être plus qu'un autre, vu que notre système, le fameux système où les gens acceptent comme défini, la personne la plus importante, c'est celle qui est sur le trône, donc c'est à elle d'agir en première. Mais Ardisson, il rigole. Et ça met un peu plus loin. La télé, c'est un média qui est contrôlé a posteriori, par un organisme, le CSA. Le cinéma, les jeux vidéo, etc., c'est contrôlé en amont. La télé a le luxe d'être contrôlée après. Le CSA a ouvert une enquête sur la séquence. Mais ça va pas à Ardisson. Ah non. Alors il vous lâche un petit truc, un petit sympathique. Le CSA, donc là je cite, le CSA s'appuie sur des signalements. Je déteste ce système de dénonciation anonyme. On se croirait en 1942, époque où les Français avaient une fâcheuse tendance à dénoncer. Je trouve cela incroyable, c'est Orwell, on rêve. Je suis un citoyen français qui répond aux lois de mon pays. Si une association de lutte contre le remonté de jupe et m'attaque, très bien. Mais moi, le CSA, je ne reconnais pas cette juridiction intermédiaire. Le truc coûte 40 millions d'euros par an à la collectivité nationale, au moment où on ampute le budget de France Télévisions de 80 millions d'euros. Ah mince alors! Un point Godwin? Tenter de culpabiliser les gens? Parler d'argent pour rediriger le débat ailleurs? On est sur du très très lourd là. Juste un mec qui refuse que son travail soit contrôlé, car il est au-dessus des gens.
Ce qui est quand même surprenant parce qu'il le fait pour qu'il soit vu par un maximum de gens. Donc le principe de délation là, ça fonctionne pas des masses.
Comprends même pas moi. Comment est-ce qu'on en arrive à critiquer le...
Surtout comment on en arrive à parler d'un signalement de quelque chose à la télé à comparer ça à des gens qu'on dénonçait pour les envoyer dans des camps.
Enfin, je veux dire, non, c'est la comparaison est juste incroyable. Alors, pour le coup, c'est même pas la première fois. Hein. C'est la deuxième fois qu'il fait ce petit rapprochement.
Il aime bien, en fait.
Hein. Il aime bien, je pense que ça l'a traumatisé.
Mais il dit aussi de la merde sur la commune de Paris, donc c'est pas toi le moins. Mais... pas la commune, la commune historique. Pas la ville.
En tout cas, c'est bien là le syndrome dont je parlais depuis le début. Hein. Le gars oublié qui a été responsable d'un show et que les gens qui regardent sont influencés par ce qu'ils peuvent voir, de manière inconsciente. Bref, nous sommes de manière peut-être inconsciente, plus en confiance avec la télévision qu'avec les autres médias. J'ai pris les exemples de Baffy et du beaucoup plus spécifique pour les Insoumis. Mais l'idée est là. La télévision a oublié qu'elle n'était pas juste regardée. Elle a un impact. Et donc, faites attention. Voilà.
Cool.
Bon, bah merci. Salut.
Allez.
Bah, de toute façon, après, oui, c'est, en fait, il faut qu'on ait ou qu'on essaye d'avoir, en tout cas, toujours cet esprit critique, en fait, quel que soit le support, en fait, qu'on regarde.
Totalement.
Et effectivement, la télé, je pense qu'elle a vraiment bénéficié longtemps, malgré des trucs de dingue. Hein, parce que je me le suis noté vite fait, mais enfin, PPDA qui a tenu pendant si longtemps le journal info de TF1, le mec, il a quand même bidonné une interview à l'époque.
Quatre interviews en
quatre.
Tout.
Hein. Ouais. Et enfin, je veux dire,
donc, une de je sais plus qui.
Je sais plus, je voulais dire Fidel Castro,
donc,
mais
Fidel Castro,
c'est peut-être
Saddam Hussein, je sais plus lequel des deux. Mais...
Et que tu dis, le gars, il a quand même fait toute sa carrière à la télé. Alors. Que tu fasses des erreurs, oui, mais là, c'était clairement monté. Et effectivement, la télé, elle a... Mais parce que je pense qu'elle avait effectivement... Elle n'avait pas de... Elle n'avait pas de concurrence, en fait.
Mmh.
Donc,
ouais,
là, je pense qu'il y a peut-être justement des choses qui reviennent un peu à se mettre en question, en disant, mais attends, il y a des trucs qu'on arrive à lire ou des infos qu'on arrive à voir ailleurs qu'on n'a pas forcément dans les médias, on va dire, plus classiques comme la télé. Donc, effectivement, après, c'est... Ouais, c'est l'esprit critique partout, tout le temps, en fait, quoi.
Et puis on te demande pas à la télé de vérifier les sources, puisque la télé est la source. On a souvent entendu comme argument, bah, je l'ai vu à la télé.
Oh, toi aussi,
ouais,
je l'ai lu sur Internet.
J'ai même, je l'ai lu sur Internet. Ouais.
J'ai lu sur Internet, oui,
si
ça marche aussi.
Les trucs un peu, comment dire, conspi, ils l'ont vu sur Internet.
Hein. Oui,
nulle
après,
part ailleurs, parce que justement,
voilà.
Tous les autres médias mentent.
Après, sur Internet, tu vas avoir le réflexe de te dire sur quel site.
Mais je suis pas sûr. Je voudrais pas idéaliser autant les utilisateurs et les utilisatrices d'Internet.
Après, voilà, c'est vrai
que
c'est comme tu disais, tu dois garder le sens. Enfin, tu dois. Je suis pas là pour imposer des lois à qui que ce soit, mais l'idée, ça serait de garder un sens critique sur tout ce qui est amené comme information. Donc, de toujours avoir des points de comparaison avec d'autres sources d'information et de pas considérer que la télé. En soi, elle est complète et globale. Et voilà, enfin...
Bah en fait, moi, je veux juste rappeler quand même d'où vient la télévision en France, parce que c'est intéressant. D'abord, il faut se rappeler qu'historiquement, la télévision était un outil fasciste au départ, parce qu'elle est créée et mais elle est surtout propagée par les régimes fascistes qui estiment que c'est un bon outil de diffusion de l'information, c'est pas pour rien, et parce qu'il y avait justement cette notion de l'écran ne permet pas le recul, c'était un peu l'idée. Et la deuxième chose, mais c'est pas pour dire que la télé c'est fasciste, hein, faites pas des raccourcis à la con, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, et la deuxième, non mais c'est pour voir qu'on avait déjà dès le départ de la télévision, senti que ça évitait la réflexion, c'est-à-dire que quand on le voit dans un écran par quelqu'un qui vous regarde en face et qui vous dit c'est comme ça, bah c'est comme dans la vie, quand quelqu'un vous paraît très très sûr de lui, vous vous dites ah ben il a raison ce monsieur ou cette dame, parce que il ou elle le dit avec vraiment de l'aplomb. Mais la télé c'est ça, c'est qu'on vous assène des choses et du coup vous avez du mal à vous dire mais il me raconte de la merde quoi en face. Et quelqu'un qui doute à la télé d'ailleurs fait rarement de l'audience parce qu'il doute. voilà. Et la deuxième chose c'était un truc juste que je voulais dire pour rigoler avant de bas, c'est que moi quand j'étais petit il y avait pas Internet, alors on me disait pas Internet, c'est pas vrai. Voilà, c'est juste pour dire ça.
Justement, tu l'as connu, bah, moi aussi.
J'ai connu longtemps petit, après, moi, oui. J'étais plus petit.
Mais ouais. C'est arrivé, justement, on allait beaucoup sur Internet pour aller s'aider pour les disserts, pour les trucs de contrôle, etc., d'histoire, etc., ouais. Et tout le monde te disait, fais attention, ce qu'il y a sur Internet, c'est pas forcément vrai. Va
ah oui,
voir les livres d'histoire, va tout ouais. Ça, là, c'est vrai. Ce qui est déjà pas le cas, en plus, hein. Enfin, pas toujours. Mais Internet, moi, on m'a vraiment toujours... asséner cet argument. Quoi.
Mais je suis d'accord, et c'est vrai pour la télé qu'il n'y avait pas le recul, parce que pendant des années, il y a des profs qui disaient regardez les Bogdanov parce qu'ils parlent de science. Alors, c'est ces mecs qui étaient à côté de la plaque et ont raconté de la merde à des générations complètes. Quoi.
Et ils le sont donc, toujours. Voilà.
Et ils le sont toujours. Hein, c'est toujours des très mauvais scientifiques et ils sont très mauvais vulgarisateurs. Ils racontent vraiment des fois de la merde. Et sauf que il y avait des profs qui disaient mais regardez les Bogdanov, c'est sympa, c'est à 17h30, c'est cool. Quand vous rentrez, vous prenez votre goûter devant. Quoi. Enfin, moi, c'était mon époque. Et du coup, c'est intéressant de se dire bah oui, en fait, on faisait regarder finalement quelque chose qui était faux. Aujourd'hui, il y a plein de scientifiques qui se disent, mais ils racontaient n'importe quoi. Donc, du coup, c'est vrai, c'est dans le même dans le milieu professoral, on n'avait pas ce réflexe de dire, oula, attends, c'est qu'un outil, quoi. Mmh. C'est, voilà.
Mmh. Musique ?
Eh ben, allons-y.
Scars to fade away, the shake up you wanted to. deserve to die. Wake up, grab a brush and put a little makeup. Hide the scars to fade away the shake up. Why'd you leave your keys upon the table?
Eh ben on ne sait pas.
C'est la magie de Radio Canu, hein ? L'émission, c'est la causerie.
C'est quand le titre.
On maîtrise ce soir.
C'est dur.
Qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Alors, on vient d'écouter une reprise de System of a Down, Chepsue, de Wax et de, alors, attention, Siobhan Wilson. Voilà, genre ça se trouve sur Internet, hein, YouTube, Wax fait énormément de reprises, c'est souvent très très bien, donc allez voir, c'est vraiment bien.
On a entendu le début de la reprise de Bitch Can I Have My Money, qui est pas mal aussi.
Voilà.
Voilà.
Voilà, voilà, quand on tire les titres d'Internet.
Je n'osais pas le dire. Bah tiens, t'as le micro, ben, garde-le donc, tu voulais nous parler, tiens aussi toi, de télévision et de réflexion
c'est
sur
vrai.
L'après.
C'est incroyable.
C'est fou. Hein.
Ah, on croirait vraiment qu'on bosse ça, mais alors que non, en fait. On vient chacun avec un sujet.
C'est ce qu'on a préparé.
Ben oui, mais on prépare, mais on choisit pas nos sujets selon les ceux des autres. Ah. Alors oui, alors pardon. Ouais, moi, je voulais revenir sur l'enquête réalisée par Cache Investigation sur France 2 qui s'appelait « Travail, ton univers impitoyable », qui a fait beaucoup parler. Alors, je sais pas si c'est que sur les réseaux sociaux, mais en tout cas sur le...
On l'a fait parler en général.
Les réseaux sociaux, ça a bien fait parler, quoi. Et en fait, je voulais vous proposer, bah, comme le fait le journal Réfractaire, petit coup de pub pour les copains et copines anarchistes de la région de Rodez et de ses environs. Donc c'est un journal anar, et bah, qui, enfin, vous inviter à essayer qu'on aille un peu plus loin en fait que juste se dire « Ouh là là, c'est pas bien Lidl et Free ».
Lidl et Free, ça
oui, s'appelle. Lidl et Free. Oui. Donc ouais, effectivement, si l'enquête, enfin d'Élise Lucet et de son équipe, enfin moi personnellement, je l'ai vraiment trouvée très bien faite, très intéressante, journaliste qui est vraiment allé au frontal et au face à face avec des responsables des entreprises. Donc ça, c'est très intéressant.
Les journalistes, parce qu'on dit souvent Élise Lucet, mais elle a une équipe qui est quand même
c'est
vraiment.
C'est pour ça que j'ai mis
bien,
son équipe. Ouais. Pardon. Et donc ouais, donc effectivement, ça c'est bien, parce que ça permet aussi à tout le monde, du moins à toutes celles et ceux qui sont un peu loin du syndicalisme ou qui de par leur parcours n'ont pas goûté aux joies de l'exploitation la plus crasse, violente ou déshumanisante. Bah, ça permet de voir des boulots et des conditions dégueulasses dans des grosses
entreprises, comme je le disais, chez Free et chez Lidl. Alors avec des exemples, hein, je vais quand même vous en citer, parce que c'est toujours intéressant de se rappeler que voilà, il y a toujours des tafs de merde. Donc les préparateurs de commandes, à commande vocale hein, chez Lidl, qui soulèvent à peu près 8 tonnes de produits par jour, et par personne, hein, vraiment. Les accidents du travail, qui sont 3 fois plus nombreux pardon, que ceux que, des autres entreprises du secteur. Sinon, il y a aussi l'outil même de travail à la commande vocale, hein, c'est-à-dire que c'est une machine qui connaît à peu près 40 de mots, et qui, si par exemple vous dites bonjour à un collègue, la machine vous dira « je n'ai pas compris, merci de recommencer ». Et comme ça, et il n'y a que ça. Hein, donc il y a une machine qui vous parle avec 40 mots, voilà, donc c'est vraiment très très sympa comme travail. Il y a aussi effectivement bah, la polyvalence hein, des salariés de chez trucs discount comme Lidl et bien d'autres hein, c'est, qui font passer de la caisse à la mise en rayon en une minute. Le travail même de la caissière qui est, je pense, vraiment dingue parce que ça vous fait biper un certain nombre d'articles à la minute. Et...
un toutes les 4 secondes.
Voilà, donc vous imaginez la vitesse qu'il faut. Passez votre main devant vous comme ça toutes les 4 secondes et voilà, en ayant bien de l'idée que vous ayez dû passer le code barre à un moment donné. Donc voilà, il y a aussi les logiques managériales hein, qui, sont, bah, qui passent par le harcèlement, le cassage de grève, le licenciement des syndicalistes ou même ceux qui ne sont pas syndicalistes mais qui sont dans la lutte. Qui est aussi celle d'empêcher les salariés d'aller aux toilettes, hein, et aussi l'utilisation de la sous-traitance, c'est toujours des logiques de finance, et les logiques financières qui, elles aussi, bah, finalement, sont servies, enfin, elles arrivent par le fait de l'utilisation de tout ce que je vous ai dit plus tôt, en fait, quoi, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, le harcèlement, etc., etc., la minimisation ou la maximisation de l'utilisation des travailleurs et des travailleuses, c'est pour amener toujours du plus du pognon, hein, ça s'éloigne rarement de ça. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Pardon, je me perds un petit peu. Et aussi, alors c'est oui, et aussi de voir la pédance des hauts responsables qui souvent sont réservés que aux syndicats, etc. Quand ils vont un peu au frontal avec les responsables. Et bah oui, leur capacité à ces responsables de grosses entreprises et pas que, bah de tout éluder, soit de justifier à peu près tout, ou aussi bah de voir la protection que permettent leur statut entre eux, comme ça. Et là, forcément, je pense à ce manager de chez Lidl, qui était un gros harceleur, hein, vraiment très violent, etc., qui finalement est toujours dans le groupe Lidl et qui a juste changé de pays, qui aujourd'hui est en Allemagne. Alors, je sais pas si c'est une punition ou une promotion. Bon, en tout cas... c'est violent, vraiment, comme punition.
On peut rappeler que l'Allemagne, c'est le siège de Lidl, donc c'est plutôt une promotion qu'une
bah
punition.
Bah ouais, tu te rapproches de la direction. Enfin, et donc voilà, donc, cette enquête, effectivement, elle permet au plus grand nombre de voir tout ça. Et par contre, ce que je me disais, c'est que ça serait idiot quand même de penser que toutes ces choses-là ne concernent que les géants comme Lidl ou Free, quoi. Ce serait idiot, je pense, de penser que le harcèlement au travail n'a lieu que dans ces entreprises. Il serait idiot aussi de penser que la polyvalence, la flexibilité, son utilité financière, du point de vue patronal, encore une fois, ne serait utilisée que dans ces entreprises. Les autres seraient tout clean. Il serait idiot de penser que les métiers, surtout les conditions dans lesquelles ils sont faits, bah, touchant, caressant, quand même, l'inhumanité, quand même, hein, que vraiment, là, quand t'as la commande de 40 mots qui te gueulent dans l'oreille certains trucs, c'est déshumanisant, bah, n'aurait lieu que dans ces deux boîtes. Il serait aussi idiot, je pense, bah, de penser que le pouvoir patronal dans cette situation, et il est partout le pouvoir, hein, donc, qu'il serait que, pareil, là aussi, que dans ces entreprises. Alors que le pouvoir, encore une fois, selon moi, il peut être au travail, mais aussi à la maison, aussi dans les assos qu'on fréquente, dans les groupes politiques qu'on fréquente. Partout, en fait, le pouvoir peut se foutre. Donc voilà, donc, le journal Réfractaire, dont je vous parlais aussi, lui, en fait, il revient sur une étude de neurosciences qui a été faite, dans le monde libertaire aussi parlé. Ouais, je suis un peu de promo pour les journaux, etc., qui sont, bah, qui eux sont libres et indépendants, effectivement, parce qu'ils vivent de rien. Et qui portent en fait sur le pouvoir et les mécanismes biologiques et hormonaux, genre avec dopamine et testostérone, qui poussent au toujours plus. Toujours plus de victoires, toujours plus de pouvoir, pour toujours plus de victoires, toujours plus de pouvoir, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors, je voulais quand même vous citer vite fait Bah, l'article du ML, mais en tout cas juste une partie. Hein. Donc je vais vous le citer. Donc, le pouvoir est une drogue. Ceci n'est pas une métaphore, c'est une constatation médicale. Le pouvoir entraîne accoutumance et dépendance, comme l'héroïne, comme la cocaïne. Le pouvoir, réalité sociale, modifie la réalité biologique, hormonale et neuronale des personnes qui en ont. Une personne dépendante a sans cesse besoin de ce dont elle dépend. Peu à peu, la quantité ou l'intensité de ce dont elle dépend doit augmenter pour trouver toujours le même plaisir. Il faut donc de plus en plus de pouvoir à la personne qui dépend du plaisir procuré par le pouvoir. La victoire déclenche la même accoutumance que le pouvoir. Gagner déclenche de puissantes décharges de testostérone et de dopamine. Les conséquences politiques sont claires. Écraser autrui procure du plaisir addictif. Alors je vais quand même, attention, j'entends déjà de là les gens qui disent « Oh, tu fais des grands ensembles ». Non, je pense pas que tout le monde forcément fonctionne comme ça. Mais en tout cas, quand on a vraiment du pouvoir, je pense qu'il est quand même intéressant de regarder ce genre d'analyse et d'enquête et d'études. Donc voilà, donc ça c'était cet extrait-là. Et en fait, bah, voilà, moi je voulais terminer par ça. C'était que bah, je pense qu'il serait idiot. Parce que, oui, parce que l'idée, c'est de dépasser un cache investigation et pas de se dire, bah voilà, on a vu et bon, bah c'est tout. Ou alors de se dire, oh, bah, je vais compter sur, je sais pas, un gouvernement par exemple, qu'on voterait tous les 5 ans. Donc, selon moi, je pense que ce serait idiot d'attendre sur ces gouvernements-là, quels qu'ils soient, de nous sortir de cette crise face à la hiérarchie, face au pouvoir et à l'abus de celui-ci, parce que tout ce que je vous ai cité avant, selon moi, sont liés au pouvoir, étant eux-mêmes, ces politiques et politiciens et politiciennes, bah des gagnants et des gagnantes de la course au pouvoir. Donc peut-être qu'eux aussi, en fait, ils en veulent juste toujours plus, en fait, et que nos problèmes, c'est pas vraiment leur problème, et qu'en fait, leur seul problème, c'est d'être toujours au pouvoir et toujours plus de pouvoir. Parce que, encore une fois, c'est toujours cette logique, hein, effectivement, de pouvoir qui entraîne le reste. Et donc, bah, je conclurai là-dessus, hein, mais qui nous appartient individuellement et collectivement, d'interroger le pouvoir, en fait, où qu'il soit, partout, tout le temps. Et je le répéterai encore une fois, au travers du travail. Travail qui est quand même un contrat de subordination. C'est-à-dire, par contrat, on accepte le fait d'être dans une subordination. Et on parlait de
donc
pouvoir...
Donc d'abdiquer une part de liberté.
Ah ouais, merci. C'était là où je voulais en venir. Mais aussi, effectivement, comme je l'ai dit au début, dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, dans les associations, dans les syndicats, bref, partout, partout, partout. Et voilà, et que, encore une fois, je parlais d'un point de vue anarchiste, et j'ai cité des choses anarchistes, anarchiste, absence de hiérarchie. Donc, vous voyez, il faudrait qu'on aille, je pense, jusqu'à la racine de tous nos problèmes dans nos sociétés, etc. Et effectivement, encore une fois, pas de s'arrêter, juste une enquête qui a été faite et qui est très bien, mais d'aller plus loin, parce que sinon, encore une fois, c'est juste se dire « Ah ouais, c'est pas bien !» Mais pendant ce temps-là, ça continue vraiment, je pense que ça continuera encore très longtemps, en fait, si on ne bouge pas. Voilà pour moi.
Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une sorte de centre de désintoxication du pouvoir ? Tu sais, genre tous les 5 ans, ben voilà, t'as fait ton mandat, maintenant tu vas passer ta retraite, histoire d'arrêter de croire que t'en as.
Ça s'appelle le Sénat, non ? Pardon.
C'est non, ça c'est pire que tout. Ça c'est plus le palliatif, tu vois.
C'est comment c'est pour ça, dose quotidienne. Non mais c'est intéressant.
C'est Valium, ça.
C'est intéressant parce qu'effectivement, oui, il faut interroger ces notions-là. Mais ce qui moi m'interpelle, c'est surtout les gens qui regardent des fois Cache Investigation plus pour voir ce qu'Élise Lucet va faire que pour le sujet. Et ça, c'est un des défauts justement du journalisme. Moi, j'aime beaucoup ce type de journalisme. Il est très pratiqué aux États-Unis et je trouve que justement, il y a un très bon côté à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment du cash. C'est qu'à un moment donné, on y va et on prend les gens sur le fait et on les dit, bon, voilà, maintenant je sais que tu as fait ça et voilà. Ça rappelle une journaliste qui avait sorti au fils de Donald Trump la copie des mails qu'il avait envoyé à je sais plus quel avocate russe ou avocat russe et qu'il était en train de lui dire non, j'ai jamais envoyé de mail et qu'elle le sort tranquillement sur la table en disant, bah, a priori, si, quoi. Voilà, c'est moi je trouve ça très bien. Seul problème, c'est de ne pas tomber après dans une espèce d'effet spectacle qui justement ce dont tu parlais, Stan, qui fait que au final après on regarderait plus ça comme un match de catch que comme un outil pour s'armer intellectuellement, et c'est le risque en fait des fois de ce genre d'émission qui peuvent tomber un peu dans ces excès-là. Et je vais finir là-dessus, c'est un peu le problème que j'ai avec des émissions comme Quotidien ou autres, qui finalement font ce qu'on appelle de la surface spectacle, c'est-à-dire qu'on vous montre plein de trucs qui sont très drôles, mais qui sont finalement que la surface des choses, et en fait on en oublie que sous la surface, il y a du fond. Se foutre de la gueule de Donald Trump, c'est très drôle, par exemple, faut peut-être pas oublier qu'il a l'arme nucléaire sous le doigt, et que effectivement ces phrases que ne sont pas juste pour déconner, qu'il y a des choses beaucoup plus graves derrière. Ça fait ça, en fait, le truc, la limite que je trouve à certains types d'émissions, quoi.
Moi, je vais juste revenir sur deux choses aussi. Ce cache et investigation était très intéressant, mais pour une des raisons, c'était pour montrer ce côté absolument affreux des sous-traitants.
Ouais, ou des filiales.
Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se cacher, parce que là, en fait, on parle de Free, mais le problème, il est chez Mobitel, il me semble.
Oui,
c'est ça.
Et en fait, c'est vraiment ça. Free se cache, en fait, tout le long en disant, non, c'est pas chez nous.
C'est notre filiale à 100%, mais c'est pas chez nous.
C'est qui fait de la merde, on va les virer, vous inquiétez pas. Enfin, là est le problème, c'est qu'on se rend compte que, bah oui, c'est des grands patrons qui, parce qu'ils savaient qu'ils allaient devoir faire de la merde, enfin, aux yeux des gens.
Filialisent, en fait.
Filialisent, et puis comme ça, leur merde, elle est un peu plus loin.
Oui, c'est ça, c'est la filiation est une logique qui.
Filialisation.
Oui. J'ai dit quoi ?
Filiation, c'est pas comme les enfants. Il manquait un yation.
Et juste pour rebondir sur mon sujet, parce que ça m'a fait rire, Hanouna a défendu en disant que franchement. Et Lise Bucelle est allée vachement loin avec Lidl, c'est pas bien et tout. Et le lendemain, tous les tweetos lui ont dit oui, c'est un des seuls, en fait, Lidl, à avoir continué à sponsoriser ton émission. Donc,
on se sert entre amis, voilà. C'est toujours comme ça.
Mais oui, et ça rejoint toujours de prendre cette distance, de regarder qui parle d'où, etc. etc.
Une notion de pouvoir, comme tu disais.
Mais oui, qui finalement rejoint toujours ces notions de pouvoir. Donc voilà, continuons d'interroger le pouvoir partout, tout le temps. Et des fois, c'est un peu fatigant, mais ça fait du bien. Et que si tu veux aller vraiment encore mieux, eh bien moi, je te conseille un truc, c'est de chanter ce refrain.
Mais où vous étiez ? Je vous cherche depuis une heure. Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui. Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent. Allô ? Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais. Allez vous faire foutre.
À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les poids, la hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains noires. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les poids, la hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains noires. C'est ça, boss, 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 beaucoup. Écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. Tout le monde y pense, tout le monde oublie. Personne se barre, tout le monde subit. Alors tu bosses 15 pompes sur un Macintosh. C'est moche, y'a le boss qui vénère comme un boche. Il te crache dessus, tu stresses et l'angoisse. Putain de système. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les poids. La hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains noires. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les poids. La hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains noires. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les poids. La hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains noires. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les poids. La hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains noires. Mais qui tais-toi pour me parler comme ça. T'es placé par papa et tu te crois plus fort que moi. Mais qui tais-toi pour me stresser comme ça. Qui te donne le droit de te croire au-dessus de moi? Ma supérieure, parce que t'es mon supérieur. Espèce de bâtard, je vais te péter le postérieur. Et quand tu feras le bouffon dans ta caisse de fonction, fais gaffe, j'aurais peut-être scié la direction.
Tu sais, de toute façon, la société fonctionne comme ça, hein. Excuse-moi, mais c'est genre t'enfoncer partout là.
Je t'enfoncerai jusqu'à ce que j'en crève. Et comme Goldman, j'irai au bout de mes rêves. Et même si la chanson est belle, elle sert à rien. Crois que ça te fera du bien de gueuler ce refrain. Ah bah la hiérarchie. Pour tous ceux qui ont les mains noires, à bas la hiérarchie. Pour tous les mecs qui sont dans les poids, la hiérarchie.
j'espère que toi aussi ça t'a fait du bien de gueuler ce refrain.
C'était quoi le refrain?
Ah ben, je crois que c'était à bas la hiérarchie. Ouais, et c'était Stupéflip, et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et la causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Merci. Et nous okay. passons. Nous
ça te met une patate.
Ah ouais, ah oui, c'est incroyable. Moi, je sais pas si vous avez pas envie de tuer votre chef, enfin, je comprends pas.
Il y a ça bon. C'est le popper qui marche. Pour lui mettre la patate. Et donc.
Oh, allez, on se reprend. Donc, Fab, se reprendre vraiment. Fab, tu vas nous parler d'un artiste et d'un pan de sa vie qu'on a un peu effacé.
Oui, et d'une polémique aussi qui est née. Donc, on va passer à Dardard, vu qu'on parle de télévision depuis tout à l'heure. Parce que l'artiste dont je vais vous parler, c'est Gauguin. Et Gauguin a eu l'honneur d'être dans Dardard plus de 27 fois depuis la création de l'émission. Voilà, sans que ce que je vais raconter ne soit jamais évoqué. Donc, il y a aussi un film qui est sorti qui s'appelle Gauguin, Voyage de Tahiti, qui est un film d'Edouard Deluc avec Vincent Cassel. C'est soi-disant un biopic extrêmement fidèle sur le peintre et qui explique tout sur lui et comment il est arrivé à devenir le peintre qu'il est. Vous voyez, qu'il a fait ses chefs-d'œuvre, tout ça. Alors, il est sorti sans réelle polémique, mais c'est sans doute plus parce qu'il n'intéressait pas grand monde qu'autre chose, hein, faut être très clair. C'était pas un film attendu, et bon, voilà. Mais il est présenté vraiment comme étant extrêmement fidèle. Alors, le problème, c'est que, ou plutôt grâce à un journal qui s'appelle Jeune Afrique, qui allait voir le film, et ils ont été très très surpris. Ils ont dit, bon, tu vois, c'est marrant, c'est censé être super bien fidèle, et un truc qui va pas. Donc ils ont sorti un article, c'est Gauguin, Voyage de Tahiti, la pédophilie est moins grave sous les tropiques. Ah tiens, interpellation, Gauguin, pédophilie dans la même phrase. Mais que se passe-t-il? Et en fait, les deux journalistes de Jeune Afrique, le spécialiste cinéma et un spécialiste d'histoire, ils se sont dit, mais il y a un problème. Et ils ont sorti cet article en dénonçant le fait que la pédophilie de Gauguin était cachée dans le film. Et on peut dire qu'il sera difficile de ne pas voir l'horreur de cet oubli avec ce qui suit. Donc le journal rappelle, je vais le citer maintenant. Ce que cette histoire ne dit à aucun moment, c'est que Taoura, qui s'appelait en réalité Théa Amana, avait seulement 13 ans lorsque Gauguin, alors âgé de 43 ans, l'a pris pour, entre guillemets, épouse en 1891. Et malgré ce que pourrait laisser croire le biopic, elle ne fut pas la seule à partager la vie de l'artiste dans l'île. Il y eut aussi la jeune prostituée métisse Titi, ainsi que Po Oura et Vao Eo, toutes deux âgées de 14 ans. Enfin, dernier oubli, entre guillemets, le maître était atteint de syphilis, maladie sexuellement potentiellement mortelle, il en est d'ailleurs mort lui-même, qu'il distribuera généreusement à Tahiti, qui ne connaissait pas encore à cette époque-là de vagues de syphilis. Dans le film, Gauguin se voit seulement diagnostiquer un méchant diabète. Voilà. Et on en pleurait de rire si ce n'était pas aussi grave. Voilà, ça c'est ce que Jeune Afrique a publié. Alors, c'est intéressant parce que joie d'internet, je dirais, et tant mieux, parce que Jeune Afrique, jusqu'à maintenant, sans internet, tout le monde s'en foutrait un peu, comme à peu près tout ce qui concerne l'Afrique. Mais au final, ils ont réussi à avoir une petite audience parce qu'il y a plein de gens qui se sont jetés un petit peu sur cette tribune en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous voyez, ce que Gauguin, mais ce génie, en fait, oui, voilà. Alors je vais rappeler que Gauguin, il est né en 1848 et il est mort en 1903 de la syphilis, justement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a eu cette polémique, déjà il y a eu tout le front raciste qui est arrivé pour expliquer que ces Africains n'avaient pas à nous expliquer quels étaient nos génies blancs. Ceux-là, on va les oublier parce que ça n'a aucun intérêt. Mais il y a quand même des gens qui sont arrivés et qui, ils n'ont pas d'intérêt parce que ce sont juste des gros cons. Hein, voilà, et certaines personnes, certaines personnes sont arrivées quand même pour essayer de laisser croire que lorsqu'il était parti sous les îles, il n'était pas vraiment colonialiste, ni pédophile, ni voilà. C'est un peu les îles qui l'ont perverti. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Alors ça, c'est le truc le plus abject, mais il y en a quand même qui ont osé tenter ce truc-là. C'est-à-dire que c'était un brave gars qui est parti, et puis c'est là-bas qu'il a été perverti. Pour rappel, Gauguin, quand il est parti sur les îles, il a abandonné sa femme et ses 6 enfants, il les a laissés sans le sou, et il s'est barré. Donc voilà, tout ça pour ne pas payer d'impôts, en réalité, au départ. Donc on va arrêter un petit peu de se leurrer. Ce n'est pas un mec bien, c'est juste un salopard qui s'est barré au départ. Pourtant, de nombreux écrits, d'ailleurs, de la main de Gauguin, dans des lettres à des amis, démontrent qu'il savait pertinemment où il allait et pourquoi il y allait. La preuve, c'est que plusieurs historiens, justement, ressortis ses écrits, et notamment quelqu'un qui avait écrit une biographie de Gauguin pour rappeler qu'il était un gros salopard, ils ont dit, Gauguin écrit, les prostituées sont moins chères ici. Et les jeunes enfants sont délicieuses. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut pas dire qu'il y a un problème, qu'il savait pas ce qu'il voulait. J'ai bien cherché. Et il soulignera aussi, en toute connaissance de cause, qu'il peut ici trouver de quoi apaiser ses envies. Voilà, je vous laisse méditer sur ces horreurs. Il faut noter que la pédophilie est déjà à l'époque condamnée à ce qu'on appelait la métropole, hein, c'est-à-dire la France, mais pas dans ses colonies. Donc c'est ça qui était pratique, c'est-à-dire que ce que vous pouviez pas faire en métropole, vous pouviez aller le faire dans les colonies. C'est joyeux, hein. Et ça, il le savait, Gauguin, parce que d'abord, Gauguin, faut savoir que c'est pas quelqu'un qui était pauvre ou quoi que ce soit. Enfin voilà, non, c'est quelqu'un qui fréquentait une certaine bourgeoisie, qui était très bien renseigné, qui avait des amis avocats, tout ça, tout ça. Donc il savait pertinemment ce qu'il faisait, pourquoi il allait là-bas, voilà. Alors on essaie souvent de faire passer Gauguin pour un rebelle, parce qu'il prendra quelquefois la défense des indigènes, entre guillemets, comme on disait à l'époque. Alors c'est oublié un tout petit peu vite qu'en fait il l'a fait surtout parce qu'il souhaitait racheter une plantation sur place, plantation dans laquelle on pratiquait une forme d'esclavage quasi, hein, faut pas non plus se mentir, et qu'il rêvait de devenir juge de paix. Parce que devenir juge de paix dans les colonies, ça permettait en fait qu'on ne puisse jamais vous attaquer. Bah oui, c'est pratique quand on ne veut pas être attaqué. D'ailleurs, il y a un truc qui est un peu gênant, c'est que dans l'histoire aujourd'hui, c'est que la pédophilie de Gauguin, en fait, elle est tellement admise et légitimée que voilà comment on décrit son mariage sur Wikipédia. Vous savez, ce fameux média où on peut tous critiquer et dire c'est dégueulasse ce que vous avez écrit ou c'est faux. Alors sur Wikipédia, jusqu'à récemment, parce que j'ai vu qu'il y avait une polémique maintenant sur cette partie-là, était écrit ceci. Ainsi, dès son arrivée aux Marquises, il enlève à l'école catholique Marie-Rose Vaéo, il enlève à l'école catholique Marie-Rose Vaéo, âgée de 13 ans, 39 ans plus jeune que lui, qui devint sa vaïnée. Enceinte, elle est envoyée dans son village pour accoucher de leur fille Tika Omata.
C'est beau, on dirait un Disney.
Ouais, je vais vous redire ça. 13 ans.
Ouais.
Hein, voilà. Donc... Et ça, c'est Wikipédia. Et il n'y avait pas jusqu'à présent de notes pour dire coucou, 13 ans, il y a un problème. Donc on avait, c'est ce qu'on appelle l'acceptation de la pédophilie dans notre société en général, puisque Wikipédia, c'est 2017, hein, aujourd'hui. Donc on voit que jusqu'à aujourd'hui, ça n'était pas bien grave. Hein. Puis c'était dans les colonies. Donc, voilà. Donc on voit bien un petit peu cette notion qui est restée aussi ancrée dans nos cerveaux collectifs, en fait. Donc une fois de plus, c'est la négation de l'histoire coloniale dans un film destiné au grand public, et ça c'est grave, parce que c'est un peu une petite histoire, c'est une histoire très importante, et surtout de la même façon, on a pendant très longtemps sur les films de la Seconde Guerre mondiale nié le fait qu'il y avait des entre guillemets indigènes des colonies qui se battaient pour grande métropole France. Et ben en fait, on fait exactement pareil avec la pédophilie, avec les viols, avec tout ce qui s'est passé dans les colonies. On fait comme si ça n'existait plus. On dit qu'il avait du diabète et que sa femme avait 20 ans. Mmh. Ça passe, tranquille. Sauf que c'est pas faux. C'est pas vrai, je veux dire. je suis fatigué. C'est un peu la même chose qui se répète avec ce film. Oui, excusez-moi, je suis fatigué. On enjolive... Et on retombe dans cet exotisme puant la mort qui servait à couvrir les pires exactions des colons de l'État français. On joue sur le côté « oui, mais c'était un grand peintre », comme si cela, ça excusait quoi que ce soit. Ça n'a pas vraiment changé, hein. On continue aujourd'hui à certains défendre encore Hamilton qui s'est foutu en l'air en disant « oui, mais c'était un grand photographe ». Oui, enfin, c'était un violeur d'enfants aussi quand même, hein. Donc c'était... Voilà. Et Gauguin, il est allé sur ses îles pour faire subir la pédophilie à plusieurs jeunes filles. Il en a épousé une contre son gré et a apporté, avec d'autres, la syphilis à un peuple qu'il ne connaissait pas. On va être très clair, ça a fait des morts. En plus, c'est-à-dire déjà, ça a détruit des vies, mais en plus, il a apporté la mort sur l'île. C'est juste inexcusable. À un moment donné, on peut pas trouver ça parce qu'il peignait bien, ce serait une excuse. Je veux dire, non. Et ça doit être montré et dit pour comprendre l'ensemble de l'horreur de la colonisation, ses conséquences et qui la portait. Parce que c'était pas simplement les soldats qui portaient la colonisation, c'est aussi les gens qui ont profité de cette époque-là, les gens qui ont profité d'endroits de non-droit finalement, parce que c'était ça l'idée, des lieux de non-droit, où les gens qui habitaient n'avaient pas de droit, pour finalement aller assouvir les pires saloperies qu'ils voulaient faire. J'aurais pu m'arrêter là s'il n'y avait pas eu la réaction de l'acteur principal. Voilà. Et cette réaction ouvre la porte à quelque chose que l'on pressentait tous, la pédophilie est toujours minorée et niée aujourd'hui. Ainsi, interrogé sur France 2, tiens, on revient à la télévision, dans l'émission Stupéfiant, sur la polémique soulevée, Vincent Cassel a défendu non seulement le film et son point de vue, c'est le point de vue du film. Alors, on peut dire, pourquoi pas, c'est déjà un peu dégueulasse, mais bon, après tout, c'est l'acteur principal, il va pas dire le film que j'ai fait, c'est de la merde. Bon, Mais en plus, il est venu à, bah, en fait, à absoudre Gauguin en disant que finalement, c'était peut-être pas si grave que ça, parce que comme le dit Vincent Cassel, 13 ans à l'époque, c'est peut-être pas comme 13 ans aujourd'hui. Alors je sais pas, on a dû traverser soit une faille spatio-temporelle à un moment donné, soit en fait on a affaire à un vrai abruti, hein, pour, désolé Vincent Cassel, mais là je peux pas dire autre chose, soit on a affaire à quelqu'un qui encore une fois nous fait comprendre que la pédophilie dans le temps, ou même encore aujourd'hui, si c'est pas vraiment à côté de chez nous, c'est pas grave. Voilà, hein, c'est pas... Ils ont d'autres mœurs, ces gens là-bas.
Ouais, en fait, avoir 13 ans, je ne sais pas dans quel pays exotique ou de toute manière personne ne viendra voir ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas la même chose que d'avoir 13 ans dans un pays occidental. Quoi.
C'est ce qu'il essaie de dire, sauf que c'est complètement stupide parce que ça revient finalement à appuyer l'idée de Gauguin qui disait bah ces gens sont des indigènes, des sous-hommes et des sous-femmes, donc je peux en faire ce que je veux, quoi, voilà. Alors, sauf, voilà, donc
juste comme ça, hein, le 19e siècle, c'est-à-dire la 20e. Période de vie 1848, 1900 et quelques, là. Il y avait déjà des droits, hein, pour les humains.
Oui, tout à fait.
Pour les enfants aussi. Ben enfin, il y a qu'un siècle, hein, ou deux, allez, un et demi.
Non, mais je veux dire, il y avait des, comme on disait, la pédophilie était déjà condamnée. Donc, et là, la phrase de Vincent Cassel est très grave. Parce que non seulement elle est stupide, on va dire ce qu'il y a, parce qu'elle est complètement conne, mais en plus, elle est clairement malsaine. Parce qu'une fois de plus, lui qui affirmait avoir fait beaucoup de recherches pour le film, hein, Vincent Cassel, qui disait qu'il avait tout lu de la vie de Gauguin pour connaître sur le moindre au bout des doigts, il ne va pas me faire croire qu'il est passé à côté de cette information cruciale. Je vais faire un big up à mamie, ma grand-mère à moi, que j'ai vue aujourd'hui, et qui m'a dit, mais tu sais, ça fait 60 ans qu'on sait que Gauguin était un gros dégueulasse qui était un pédophile. Donc ce n'est pas une info qui était inconnue, qu'elle soit inconnue d'une grande partie des gens, oui, mais il y a des gens qui le savaient. C'est-à-dire, il y a des livres dans lesquels on le disait. Donc quand on dit qu'on a lu beaucoup et qu'on s'est imprégné, il ne faut pas me faire croire qu'on est passé à côté de cette info. En prime, s'il s'est vachement renseigné, bah encore une fois, c'est ce que tu soulignais, Jonathan, il a quand même un petit peu oublié que c'est déjà condamné à l'époque. Donc dire 13 ans à l'époque, c'est pas comme 13 ans aujourd'hui, bah en fait, si, par définition, même légalement. Et ça, déjà, oui, c'est la même chose et c'est dégueulasse. Et en plus, légalement, c'était déjà condamné. Donc tu peux pas dire, ah bah oui, mais non, on ne savait pas. Vous voyez ? Voilà. Donc on voit qu'en France, il est toujours aussi difficile de regarder en face l'histoire coloniale, de regarder les horreurs qui en découlent. Et tant que cela ne sera pas fait, le présent sera toujours entaché de ces zones d'ombre volontairement entretenues. Que moult fortune française se soit faite sur le dos des colonies n'a sans doute aucun lien avec le refus de regarder l'histoire en face. Pensez donc. Voilà. Et surtout, je voulais dire un truc, c'est qu'à un moment donné, il faut arriver à se dire les choses clairement. L'histoire, c'est un mouvement. Vous savez, c'est le fait que c'est ce qui se passe dans... Voilà, ça avance, c'est comme ça. On peut dire qu'on n'est pas tributaire de ce qui s'est passé dans le passé, parce que moi j'ai toujours trouvé idiot de faire porter aux générations d'après ce qu'a fait la génération d'avant. C'est comme si aujourd'hui on disait tous les Allemands sont des nazis ou des trucs comme ça, c'est un peu surréaliste. Mais par contre, et surtout idiot, mais par contre il y a une chose qui est sûre, c'est que si on méconnaît l'histoire, on peut être sûr qu'elle se répète. Si on continue à garder les mêmes intentions, on peut être sûr qu'elle se répète. Et notamment sur la pédophilie, on voit bien qu'on est exactement dans ce truc-là. C'est quelque chose qu'on a énormément de mal à regarder en face et à dire, bah finalement, ça a existé, ça existe toujours, et ça doit se combattre. Et on reste sur cette espèce de notion un peu floue qui permet des Vincent Cassel de dire qu'à 13 ans à l'époque, c'était pas comme 13 ans aujourd'hui.
Et ce que je trouve génial en fait en plus, c'est qu'on a tous été surpris, enfin beaucoup 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 de monde a été surpris d'apprendre qu'il était pédophile. C'est-à-dire qu'on a réussi à le cacher complètement, à l'enlever de la culture accessible directement pour vraiment quasiment effacer ce pan-là. Et à chaque fois, quand le débat est arrivé, tout le monde, moi, au travail, etc., on était tous « Ah, mais il est pédophile !» Mais tu le savais, toi ? Non, je viens de l'apprendre là, en même temps que tout le monde, quoi. Et ça, je trouve ça aussi incroyable, en fait. Mmh. En plus de minorer tout ça, c'est qu'on l'efface.
On
sait quand même que c'est pas bien. Mais on fait disparaître.
Mais c'est une négation de tout un pan de l'histoire, parce que Gauguin n'est qu'un exemple parmi des milliers, et malheureusement. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il va falloir admettre, regarder en face, dire oui. Et je vais le dire comme ça, mais il y a aussi des artistes aujourd'hui qu'on continue à exposer, qui, moi, m'ont toujours dérangé. Je pense à un mec comme Bacchus, par exemple, vous chercherez, BA2CHUS, vous chercherez, qui est au centre Pompidou, qui fait des tableaux pédophiles, il n'y a pas d'autre mot, qu'on dit, bah oui, mais c'est de l'art. Ben non, à un moment donné, ça porte un nom, ce qu'on fait, et c'est pas de l'art. Et quand on arrête pour de la pédophotographie, quand de la pédophotographie, elle est peinte, c'est pas mieux. Voilà, c'est juste ça l'idée, quoi. Et je trouve que pour les artistes peintres, on a tendance souvent à se dire « mais c'est des artistes ». Bah non, c'est des êtres humains qui font aussi des belles saloperies.
Mais, oui, pardon, mais c'est... Oui, effectivement, mais en plus, je pense qu'il faut réinterroger justement cette sorte de bénédiction d'artistes, c'est-à-dire que dès que les gens sont artistes... En fait, on se fout des êtres humains qu'ils étaient, genre ils étaient que artistes. Ben non, en fait, quoi, je veux dire. Enfin, ou alors, on attend que Marine Le Pen fasse des œuvres d'art et on pourra se dire, waouh, ils sont superbes ces tableaux. Sauf qu'en fait, non. Enfin, ça enlève rien à la personne qui est derrière ces œuvres-là. Et effectivement, après, de toute façon, enfin, sur le rapport aux enfants et alors là en plus sur les enfants qui étaient dans des colonies. Bah, de toute façon, je crois que, enfin, il y a qu'à regarder la situation du monde aujourd'hui, quoi. Enfin, hein, l'exploitation des enfants, l'ignorance en fait de ce qui leur arrive, et ça c'est
En même temps tout l'art porte des messages, communique, enfin c'est un des premiers vecteurs de communication. On parlait de la télé, mais l'art c'est ça aussi. Et donc à un moment donné, si on montre des scènes de manière exposées de manière à ce que intrinsèquement dans l'œuvre elles soient autorisées, et ben du coup on donne un exemple, et donc on banalise, légitimise, vulgarise des choses contre lesquelles on lutte. Alors, voilà,
tout simplement, rappelez-vous quand vous verrez un tableau de Gauguin, quand vous regardez une veille née de Gauguin, elle a 13 ans sur le tableau. Voilà. Elle n'en a pas 25. Voilà,
et c'est ce qu'il trouvait beau.
Et c'est ce qu'il trouvait beau. Voilà, et allez lire Jeune Afrique, vraiment. Voilà.
Et on passe à la musique.
Time.
Et vous êtes de retour sur les ondes de Radio Canyon 102.2 sur radiocanyon.org. Avant de vous donner le titre que vous venez d'entendre, je vais corriger une énorme bêtise que j'ai dit avant.
Vous êtes dans la causerie.
J'ai dit une énorme bêtise, je vous ai parlé de Bacchus, qui était un dieu qui n'a rien à voir. Et en fait, c'est Balthus, le peintre, voilà, vous m'excuserez. Mon cerveau a vrillé. Donc c'est bien Balthus, B-A-L-T-H-U-S, qui est un gros salopard aussi. Voilà, je le dis. Et sinon, on vient d'entendre un petit groupe tahitien qui est très très bien, qui s'appelle Pepena. Pepena, ça veut dire création. Et leur idée est de mélanger la langue tahitienne avec plein de genres de musicaux. Alors là, c'est un peu du rockabilly, tout ça. Et des fois, ils font du metal, des fois, ils font du reggae. C'est vraiment très bien. Allez sur YouTube, vous tapez Pepena. Et c'était Né-é-né-é. Voilà.
Eh bien, très bien. Eh bien, vu que c'est bientôt l'heure de la fin, eh bien, on va se quitter avec quelques brèves pour la semaine à venir. Alors, ça commence lundi. Lundi, eh bien, comme tous les lundis, hein, comme on vous le rappelle très, très, très souvent à la causerie.
Pour c'est pas
la
dire toutes les semaines.
C'était ça. Permanence donc juridique d'aide aux sans-papiers et à leurs proches. Ça se passe toujours à la Lutine, qui est toujours au 91 rue Montesquieu et toujours dans le 7e arrondissement de Lyon. Et alors ça, c'est de 18h30 à 20h.
Oui, pardon, j'ai oublié de l'écrire. Mais c'est ça, 18h30 à 20h. Oui, on fait tout en direct. On dit tiens, je n'ai pas écrit sur le truc. Okay. Mardi 10 octobre, il y a une mobilisation contre les ordonnances Macron à l'appel de la fonction publique. Et la fonction publique, je vous le rappelle, invite tout le monde dans la rue avec eux. Donc le départ, c'est à 10h30 à la gare des Brotteaux en direction de la préfecture. Et des appels nationaux interprofessionnels ont été déposés pour les gens qui voudraient faire grève. Vous êtes couverts par les appels interpro. Voilà.
Ok. Et bien ça continue toujours le mardi 10 octobre 2017, hein, c'est au CEDRAT, donc c'est le Centre de Documentation et de Recherche sur les Alternatives Sociales, c'est sur le début des pentes de la Croix-Rousse. Donc le CEDRAT vous invite à une rencontre avec l'auteur Alessandro Bresolin. Allez. Pour la parution de son pour la parution de son livre Albert Camus, l'union des diversités, les legs humains et politiques d'un homme révolté, qui est aux éditions Presse Fédéraliste. Et vous l'aurez donc compris ou pas, mais en tout cas on va vous le dire, c'est que la discussion portera sur le socialisme libertaire et sur le fédéralisme.
C'est Montée Saint-Sébastien le CEDRAT.
C'est ça.
Au merci. Pied de la Montée Saint-Sébastien. Et le jeudi 12 octobre 2017, rencontre avec le groupe Soins, S-O-I-N, groupe d'entraide autour des soins de vulgarisation médicale. Le thème de cette rencontre, c'est comment prendre soin d'une plaie au quotidien. Voilà. Et c'est à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e. Alors l'idée, c'est de se réapproprier le soin et de redevenir acteur de ces soins, de ne pas tout déléguer au corps médical, de comprendre ce qui nous arrive. Sans remettre en question forcément la médecine, c'est pas l'idée non plus.
Oui, oui, c'est voilà. Ça. Ok, intéressant. Encore jeudi 12 octobre, dis donc, on ne saura quoi faire. C'est Projection Débat en quête de sens. C'est un film de Nathanaël Coste et de Marc de la Ménardière. Donc c'est un film de voyage et de réflexion autour de ce qui peut entraîner les crises d'aujourd'hui, qu'elles soient personnelles ou globales, environnement, capitalisme, etc. Ce sera suivi d'un débat avec la salle. Donc c'est entrée libre et ça se passe à la MJC de Villeurbanne à partir de 19h30 au 46 cours Jean Damido à Villeurbanne. Donc voilà. Et ben c'était tout pour la causerie. On rend l'antenne.
Ah oui.
Mais non pas sans se faire
des gros bisous.
Bah oui, des gros bisous.
Non pas sans annoncer ce qu'on va entendre pour se quitter aussi.
Aussi.
Okay. On vous souhaite une bonne nuit. Vous allez écouter Tarot de Alt G.
Voilà.
Et on bonne vous fait nuit. Plein de câlins et une bonne semaine.
Mais oui.
Et bisous.
Et
bisous.
Dimanche prochain.
À dimanche. À dimanche prochain.
Bisous.
Dimanche.
Au revoir.
Au revoir.
Bye. Au revoir.
Je rentre à ma maison. Oh, very yellow white flash.
have sprayed you into my eyes. And cares glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp what the body grasp not. Oh, the photographic more. 3.1415 alive, no longer my morph. Waited for home at 54. Doors open like arms, my love. With a great closeness, two kappa, kappa dark. After nothing reunited with his head. I have sprayed you into my eyes.